Ça va faire 10 ans demain qu'un séisme de plus de 7 à l'échelle de Richter détruisait Haïti, plongeant évidemment le peuple dans l'obscurité, dans le chaos, dans une crise dont, j'ai envie de dire, ils sont pas encore remis, là. Richard Mimot, survivant du séisme en Haïti, directeur général du Conseil des entreprises en technologie environnementale Québec, il était avec nous au téléphone. Bonjour, M. Mimot.
Bonjour, M. Marcellet.
Pouvez-vous me décrire dans un premier temps, on va se remémorer là, ce qui se passe il y a 10 ans, les premières secondes où vous vous rendez compte là, qu'il y a quelque chose qui cloche?
Ben, écoutez, moi, je suis arrivé le dimanche à Haïti. Alors, je faisais de la formation, puis j'avais été invité par un organisme à faire de la formation pour les partis politiques. Il y avait une élection qui s'en venait à Haïti à ce moment-là. J'ai donné une formation le lundi et le mardi, je termine une formation. J'ai mon ami Serge Marcil qui arrivait, lui, le mardi vers... Il débarquait de l'avion à 16h. On communique par texto. Et puis, vers 16h50, il me dit, j'arrive dans ma chambre. Est-ce qu'on soupe toujours ce soir? Je lui réponds, oui, je vais te chercher à 18h. Bien hâte de te voir. J'envoie mon message et... Quelques secondes plus tard, là, je suis dans l'auto avec quelqu'un qui me conduit et le tremblement de terre commence. Alors, sur le coup, naturellement, on ne sait pas, quand on n'a pas vécu de tremblement de terre, on ne sait pas que c'est un tremblement de terre. Là. Alors, moi, je me suis dit, mon Dieu, y a-t-il une bombe qui a sauté? Alors,
mais vous roulez et vous le sentez là, à ce moment-là, c'est ça?
Ah oui, là, ça bouge. Tu vois des morceaux de maisons qui commencent à tomber. Puis là, tout d'un coup, tu as de la poussière. Après le tremblement de terre, tu as de la poussière. Ça dure quelques secondes. Et là, moi, le chauffeur s'appelait Basile. On s'aperçoit, là, je dis à Basile, est-ce que ça se peut que ce soit un tremblement de terre? Puis il n'y a pas eu souvent là-bas. Alors, oui. Alors, on s'aperçoit qu'on est dans un tremblement de terre. Moi, je couchais à la Villa Créole. Serge, lui, couchait au Montana. Et moi, finalement, mon chauffeur me laisse pas loin de la Villa Créole. Et je vais vous dire, c'est un peu spécial. Là. J'avais de l'air, je sais pas si vous vous souvenez de l'émission Mr. Bean.
Oui.
Quand il débarquait, là, il y avait une lumière, puis il était en habit-cravate avec une mallette. Alors, j'étais comme ça, là. Je suis arrivé, j'ai marché jusqu'à mon hôtel, habillé de même, le monde en sang, etc.
Excusez-moi de vous couper, mais déjà que Port-au-Prince, oui, est une ville, on va se le dire, assez chaotique,
oui,
ça doit être absolument infernal à ce moment-là, là.
Ah oui, non, ça crie, ça court partout, et tous les gens, sur le coup, tout le monde se demande un peu qu'est-ce qui se passe, hein, les premières minutes, là, c'est vraiment de se demander ce qui se passe, et je suis arrivé à l'hôtel, notre hôtel était à moitié détruite, la propriétaire de l'hôtel m'avait dit, oh, M. Mimot, vous êtes vivant, t'sais, alors elle apprenait des notes pour savoir qui était vivant, là.
Ouais.
Et quelques minutes plus tard, on était 7-8, là, qu'on a pris le leadership de dire, bon, on est en hauteur, peut-être que les gens vont venir voir se faire soigner ici, ou vont trouver refuge ici. Alors, on a monté un espèce de petit espace, comme une urgence. On a mis des chaises, déchiré des nappes, des serviettes de table. On a fouillé dans des chambres pour trouver des médicaments. On s'est fait un genre de petite pharmacie. Il y avait 3 médecins qui donnaient de la formation. C'est 3 médecins américains qui étaient cette semaine-là pour donner aussi de la formation. Et là, bien entendu, les gens ont commencé à arriver. Et là, ça a commencé, je vous dirais, de 7h le soir, 19h le soir, jusqu'à 8h le lendemain matin. Je suis devenu comme un médecin de brousse.
Mais M. Mimot, quand vous cherchez des médicaments dans les chambres, tout ça, oui, effondré, je suppose aussi forcément que vous ne trouvez pas juste des médicaments, vous trouvez des gens qui sont pris sous les décombres, non?
On est allé vraiment dans les endroits où c'était plus, je vous dirais, plus sécuritaire. Alors, on n'a pas eu l'occasion de trouver les gens qui étaient pris dans l'hôtel. Alors, ça... On n'a pas eu la chance de pouvoir sauver des gens dans ces conditions-là. Mais non, effectivement, on n'a pas, j'ai pas vu ces gens-là. Mais après, durant toute la nuit, ben là, bien sûr, vous avez vu peut-être la photo du petit garçon du Time Magazine. C'est moi qui venais juste, la photo d'Yvanoué Devers,
ouais,
qui était photographe de la presse, qui était là-bas sur place. C'est moi qui venais juste de un peu de soigner le garçon, de le nettoyer, de vérifier ses plaies, tout ça. Puis je vous dirais que, bon, ça a été de même toute la nuit. Des bras arrachés, du monde qui sont morts dans mes mains, dans mes bras. Les gens qui arrivaient, t'essaient de replacer les autres. T'es comme sur une adrénaline, puis tu roules... tout roule. Ça fait sauver les gens.
Est-ce qu'il vous arrive encore d'en rêver? Est-ce que vous vous considérez encore traumatisé par l'événement?
Non. Écoutez, je suis, comme je disais dans notre entrevue hier, là, je suis très... très chanceux, mon cerveau a réussi à bien placer les choses. Je me suis dit que j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné mon maximum. C'est sûr que quand tu quittes Haïti après, tu te dis, mon Dieu, tu laisses les gens comme ça. Tu veux toujours en faire plus, mais faut que tu te dises, à un moment donné, j'ai fait ce que je pouvais et naturellement, faut que tu passes à autre chose. Mais bon, quand je suis arrivé ici, naturellement, avec Christiane Pécha, qui était l'épouse de Serge Marcil, on a fondé la fondation Serge Marcil,
oui.
Dans laquelle, bon, c'est une orphelinat là, dans le village d'Étanré. On aide des jeunes depuis 10 ans. Ces jeunes-là, quand ils ont fini l'orphelinat, ils ont eu des études, ils peuvent aider à si on veut reconstruire Haïti par la suite. C'est un peu l'aide qu'on essaie de faire là, par la Fondation.
Richard Mimo, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui de ce que vous avez vécu du côté d'Haïti, puis surtout merci de continuer à vous impliquer comme ça pour aider à relever un pays qui en a besoin. Là. Je pense que c'est un euphémisme.
Effectivement. Et merci pour l'entrevue et pour continuer à en parler parce que les gens, c'est des gens courageux puis ont besoin d'aide.
Merci beaucoup, M. Mimo. Merci bien, Caroline. Je pense qu'il y a des activités d'ailleurs, évidemment, qui vont être faites ici même à Montréal pour commémorer le triste événement.
Exactement. Sous le thème pour se rappeler, ne jamais oublier, c'est la Maison d'Haïti qui invite les gens à participer à 2 jours d'activités de commémoration. Aujourd'hui et demain à la TAHU. Donc, panoplie d'activités, ateliers. Il y aura des conférences également, des documentaires qui seront présentés. Et ça débute aujourd'hui, donc, pour la première journée. Ce soir à 18h, il y aura un spectacle de danse traditionnelle, plusieurs prestations également. Et demain, ça se poursuit de 10 à 18h et il y aura un moment qui sera sûrement très significatif et très touchant. On parle de 16h53 exactement. Donc, on va...
Évidemment, l'heure à laquelle le tremblement de terre a eu lieu.
Tout s'est passé, exactement. Donc, qu'on appelle la minute de vacarme. Donc, une minute de silence au son des tambours, justement, pour faire écho au moment où tout a basculé. Donc, je le rappelle, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Ça se déroule à la TAHU aujourd'hui à partir de 11h et dimanche toute la journée.
Merci beaucoup pour les détails. 8h35. Dans quelques instants, on va parler à Emmanuel Bilodeau.
Exactement, oui, pour parler du concert bénéfice qui a lieu ce soir au Théâtre Rialto.